RMC.
Atem, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zygotomatique de Mac.
After Marseille. Ah.
Thibaut Giangrande.
Il y a toujours un petit frisson en plus sur la fin de ce jingle. Salut mes Marseillais, comment ça va? Bienvenue dans l'After Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines. N'oubliez pas de vous abonner, vous ne raterez rien, vous pouvez aussi commenter, noter, mettre 5 étoiles à cet épisode s'il vous a plu. L'équipe cette semaine, coach Courbis est là bien évidemment. Salut mon Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Et cette semaine, on retrouve à nouveau Romain Canouti en direct de Marseille. Ça va Romain?
Salut Thibaut, salut Roland, ben salut à tous. Ouais, c'est des habitudes que...
C'est imposé comme titulaire.
On prend plaisir.
Ah oui. Comme, un peu comme qui cette année à Marseille qui s'est imposé comme titulaire Illiman... Non. Asdi... Non.
Non. Bon, allez, Amir Mourinho.
Bon, ouais, allez, bon, si tu veux, allez, ouais, le ça, Amir Mourinho.
Ouais, ça s'écrit comment?
Le pauvre Romain, je sais qu'au moment où il l'a dit...
On permet à Flo Germain de passer des vacances tranquilles.
Voilà, il a regretté au moment où il l'a dit. Bon, en tout cas, comme les joueurs, vous le savez, l'After Marseille va prendre quelques semaines de vacances. Saison terminée, dernier épisode aujourd'hui, c'est donc l'heure du bilan. Qui est votre taulier? La révélation, le boulet, le Casper? Place tout de suite à l'évaluation de la saison. Et on va se faire du mal dans cet épisode, évidemment, mais je propose qu'on commence avec le sourire. Quel est, Roland, Romain, votre taulier de la saison? Coach. Ah, allez, Romain. Vas-y, Romain.
Bah pour moi, il y en a deux. Mais si on doit en choisir qu'un, je vais te dire Pierre-Emerick Aubameyang, forcément. 30 buts, 11 passes décisives. Et ce que je regarde, moi, il y a une stat que j'aime bien regarder en fin de saison, c'est le temps de jeu disputé. Et Pierre-Emerick Aubameyang, il est à 84% de temps de jeu possible disputé. Parce que quand tu dis d'un joueur, il a fait 30 matchs dans la saison, si tu joues la Coupe d'Europe, pas la Coupe d'Europe, selon ton parcours, ça peut pas vouloir dire la même chose. 84% de temps de jeu pour un attaquant de 34-35 ans. Pour moi, c'est voilà, ça te montre un certain sérieux et je suis du coup très satisfait de sa saison.
Tu nous diras dans un instant avec qui t'hésitais, mais je voudrais d'abord entendre Roland.
Justement, puisque moi j'ai aucune hésitation, je vois pas qui on peut mettre plutôt qu'Aubameyang.
Ouais, pareil. Bah, c'était qui Romain, t'hésitais avec qui?
Ben, après, je t'avoue que j'ai un autre élément, un autre facteur qui me permet de prendre ce genre de décision, c'est les notes. Et les notes cette année, il y en a un qui a survolé un peu tout le reste au niveau des notes, c'est Leonardo Balerdi.
Mais comment ça, les
il
notes
est nettement devant.
C'est quoi les notes?
Ben, tu sais, sur le fosséen, on note, puis je regarde aussi les notes. Qui se...
Ah ouais, je me suis dit, il a pris les notes de l'équipe.
Qui se distribue de partout.
Les notes de l'équipe, il a fait une moyenne.
Mais je les prends aussi. Je regarde un peu les notes. D'accord. De partout pour avoir, c'est un indicateur quand même. Après, tu peux te dire sur un match, on n'a pas vu le même match, mais quand t'as 52 matchs dans la saison, bon, à mon avis, tu arrives quand même à avoir des moyennes qui se régulent d'elles-mêmes. Et Léo Balerdi est nettement devant tous les autres, ce qui me fait dire qu'il a fait aussi une très très bonne saison et il faut pas le nier.
Roland, toi t'as pas hésité, hein, Aubameyang?
Ah ben non, pas du tout, mais j'ai noté quand même les progrès de Balerdi. Alors après, je vais être mauvaise langue en disant mais il ne pouvait que progresser. Donc et c'est ce qu'il a fait cette année. Ça fait rien. J'oublie pas certaines interventions, plutôt certains manques d'interventions. Quand tu joues à 11 contre 10 à Brest et que c'est peut-être le tournant de ta saison et que tu te fais éliminer par Les Melou de cette façon-là, tu as encore des progrès à faire.
Il sera peut-être d'ailleurs dans une autre de tes catégories. Roland, on va voir ça tout de suite parce que vous êtes d'accord et moi aussi j'avais mis Aubameyang. Il sera le taulier de cette saison pour beaucoup de monde. Qui est votre ou vos révélations s'il y a hésitation, Romain?
Ouais, révélation, là, ça devient beaucoup plus compliqué.
Ah oui, bah là, on attaque le dur du podcast.
ouais, non. Là, je vais te dire, j'en ai pas vraiment de révélation cette saison à l'Olympique de Marseille. Je vais avoir une bonne surprise. Et on en a parlé en début d'émission. C'est Amir Mourinho, qui pour moi est une bonne pioche. Dans le sens où ça t'a pas coûté grand chose et pour moi il a montré de belles choses en tant que latéral. C'est pas transcendant, je suis d'accord avec vous, mais des fois il faut aller chercher c'est bien dans un recrutement, et malheureusement là on a que ça. Donc d'avoir un joueur sur lequel tu mises pas forcément, et puis qui fait le job, et qui peut même, pourquoi pas, partir titulaire si Jonathan Clauss venait à s'en aller cet été. Donc moi, Amir Mourinho, c'est bonne pioche. Voilà, on va pas dire révélation. Il faut, les mots ont un sens, mais bonne pioche.
Roland, mais disons que bon, je suis pas puissant au point de changer les habitudes de ces bilans, mais de révélation, je changerai par progression, c'est le seul petit changement que je fais, et là je mets Balerdi.
Ouais. Et ben écoute, moi j'avais mis Balerdi également dans cette catégorie là
mais ouais, plutôt progression que révélation, puisque on attend tellement de Balerdi depuis 2-3 ans que finalement on l'a vu, même avec quelques absences qui ont coûté cher, on l'a vu quand même en net progrès.
Oui, ça peut rentrer mine de rien dans cette catégorie révélation, parce qu'on parlait d'un joueur qui était assassiné par tout le monde, et finalement cette année, quelque part, il s'est un peu révélé quand même. On lui a vu des qualités qu'on ne connaissait pas.
Ce qui est pas facile, comme tu viens de le dire, c'est que il se faisait assassiner par tout le monde, et malgré ce, il s'est pas découragé, et il a réussi à s'imposer, et là-dessus, on est obligé de lui donner un grand coup de chapeau.
Allez. On a eu du mal à trouver la révélation. Là, ça va être différent, parce qu'on va arriver dans une catégorie où on va avoir du mal à départager les joueurs.
Maintenant, je veux pas être têtu, mais j'attends avec impatience l'enchaînement. Déjà, l'intersaison, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? Mais je vais le suivre par curiosité, qui reste ou qui part, voir si cette progression continue.
Ouais, on va suivre ça. La révélation, la catégorie dont je parlais, c'est la catégorie boulet. Romain, coach, quel est votre boulet de la saison à l'OM, Romain?
Moi, j'en ai un qui se détache quand même nettement. C'est mon ami Geoffrey Kondogbia. Voilà, qui pour moi est arrangé dans la catégorie des catastrophes industrielles, de par le statut qu'est le sien. Alors c'est peut-être pas le pire joueur de la saison en termes, je te donnais les indicatifs tout à l'heure de notes, par exemple, c'est pas le pire joueur noté, mais de par l'investissement, de par son salaire, de par l'importance, on attendait vraiment quelqu'un, un taulier, et on a eu cesse cette saison de déplorer le manque de caractère de cette équipe. Pour moi, Kondogbia incarne vraiment, c'est le symbole de la faillite de l'OM cette saison, autant dans le recrutement que dans le caractère. Moi, Kondogbia, je l'ai vu faire, et je sais que le coach est très attentif à ses points de vue. Je n'ai vu faire qu'un vraiment bon match où il a tenu ce rôle-là un peu de taulier, à savoir de venir vraiment demander les ballons au gardien au moment d'être vraiment le premier relanceur en tant que milieu défensif. C'était le match retour contre Benfica, qui effectivement est une des rares bonnes soirées de l'Olympique de Marseille. Mais sinon, il n'a eu cesse de me décevoir. Il a joué, on a tendance à se dire, bon, de toute façon, il était tout le temps blessé. Mais si on regarde bien, il est à plus de 50% de temps de jeu quand même. Donc, Kondogbia, il a joué, il a vraiment traversé cette saison comme une ombre. Et pour moi, il rejoint, c'est mon image, c'est un bon mot, c'est un peu facile, mais il rejoint d'autres joueurs à son poste qui ont coûté énormément d'argent à l'Olympique de Marseille et dont le club a eu énormément de mal à se défaire derrière. C'est Alou Diarra et Kevin Strootman, voilà.
Ouais. Le mot est lâché. J'ai eu peur d'entendre il est lâché, le mot Strootman. Roland, alors moi j'avais Kondogbia aussi, j'en ai un autre dans cette catégorie boulet. C'est qui pour toi?
Si tu veux, j'ai hésité entre Kondogbia et Correa, et finalement j'ai mis Kondogbia moi aussi, parce que j'ai hésité entre boulet et fantôme. Et Kondogbia, c'est pas un fantôme, puisqu'on l'a vu, on l'a vu pas bon, mais on l'a vu. Alors que Correa, on l'a même pratiquement pas vu. Donc je mettais Kondogbia. Et après, Correa comme Casper. Et je rajouterai dans une catégorie qu'on n'y est pas, un joueur qui a brillé par son absence, il s'appelle Rongier. Et donc, ce joueur-là, qui est un joueur...
Ça peut être Casper aussi, ça marche.
Malheureusement. Lui, ça serait un Casper.
Ça dépend, il a été blessé.
Et voilà. Pour moi, on a pu constater ce qu'était ce joueur-là. Et on le constate... Bon, on a pu le constater quand il était présent, Mais là, le terme briller par son absence, ouais. je l'emploierai pour Rongier.
Ou alors taulier de l'infirmerie, comme dit Jérôme dans le club, ouais. pour Rongier. Ah. Juste un mot sur Kondogbia, parce que, voilà, vous l'avez dit, il a coûté cher, il coûte cher. Est-ce que, malgré tout, Roland, Romain, on se dit quand même que c'est un joueur, on lui connaît des qualités avant qu'il arrive à Marseille. Est-ce qu'on peut encore croire en lui dans ce nouveau projet que veut lancer l'OM? Est-ce que Kondogbia, selon vous, il peut en faire partie ou on lui trouve une
porte? Moi, j'y crois pas du tout.
Ouais, Romain.
Non. Moi, j'y crois pas du tout. Je refais le parallèle avec Strootman. Je pense que c'est fini. Strootman, par la suite, avec André Villas-Boas, on l'a vu rendre des services. Être pas forcément dans le 11, mais quand il rentre, il essaie de tout donner. Mais bon, c'est quand même autre chose vu le statut et l'investissement passé. Ben, Kondogbia, je pense que c'est pareil. Il peut aider, mais j'ai l'impression que il court après le niveau qui était le sien il y a quelques années. Donc, honnêtement, si voilà, ce qu'on peut pas enlever à Pablo Longoria, c'est qu'il a une capacité quand même. À faire sortir des éléments assez rapidement quand ça se passe pas. On se souvient d'un Gerson qui hop repart comme il est venu, voilà. Donc j'espère que là aussi les Malinovski, voilà, on arrive à trouver des portes de sortie à Vitinha, c'est quand même un sacré exploit. Donc là j'espère que Kondogbia, il va aller faire une pige ailleurs où il va pouvoir continuer à mettre des générations de Kondogbia à l'abri, et on est très content pour lui, mais voilà, pour l'Olympique de Marseille, ça me semble compliqué.
Ben moi je sais pas seulement cette saison, c'est chacun ses goûts.
T'as jamais trop aimé.
Non, voilà, j'ai toujours trouvé moyen. Bon, donc quand par exemple tu as un gay dans ton effectif à un salaire plus que correct, ben tu pars en guerre contre lui, tu le mets pas dans la liste de la Coupe d'Europe. Mais pour moi, il est nettement meilleur qu'un Dogbia, gay.
Est-ce que dans cette catégorie, pour refermer cette page boulet dont vous êtes, et on est tous d'accord pour malheureusement décerner le prix à Kondogbia, est-ce que Illiman Ndiaye était loin, hors concours, ou moi j'ai un peu hésité quand même au moment de entre mes.
Moi
entre...
ouais, tu fais bien Thibaut, hein. Avant dernier aux notes.
Mais disons qu'on a pu quand même le voir. On a pu quand même au moins lui voir faire deux matchs qui ressemblaient à un footballeur.
Sur boulet plutôt.
Non mais Correa, je l'ai même pas vu tirer un 6 mètres.
Non, c'était plus dans la catégorie boulet, justement. Malheureusement, on l'a vu, et ce qu'on a vu...
Ouais, d'accord, mais à choisir entre Correa et Ndiaye, il est quand même un peu moins boulet Ndiaye que Correa. Correa, c'est à 100%.
Bon, en tout cas, on l'a bien compris.
Non, contre...
Ouais, vas-y, Romain.
Thibaut, je suis d'accord avec toi, juste sur Illiman Ndiaye. Mmh. Tu as raison, et il y a aussi son investissement. Et quand on parle d'investissement d'un joueur... On nous rétorque souvent, mais pourquoi vous jouez, vous êtes le FC Comptabilité, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas vous qui payez son salaire ou qui payez l'indemnité de transfert. Mais justement, là où ça a un intérêt, c'est de se dire, les 17 millions d'euros qui ont été investis sur Illiman Ndiaye, s'ils sont investis sur un autre joueur ou sur d'autres joueurs, parce qu'à ce moment-là, on peut penser peut-être au recrutement de deux, trois éléments, très facile à dire après, on est d'accord. Mais quand tu vois que Jérémy Boga à Nice a coûté sensiblement le même montant, et quand tu vois l'apport de Jérémy Boga sur la saison de Nice et l'apport d'Illiman Ndiaye à Marseille, t'es forcé de te dire est-ce qu'on n'aurait pas...
Il y a peut-être une différence dans le salaire, non?
Ben ouais, je pense pas qu'elle soit l'avantage de Marseille, justement. Donc,
Bon, en tout cas.
Donc, en plus.
Okay. C'est bien qu'on augmente. Pour le Casper, on a bien compris. Joaquin Correa pour Roland, pour moi aussi. Même si je vais avoir un autre nom à vous souffler dans quelques secondes. Romain, quel est ton Casper de la saison marseillaise?
Ah non, mais Joaquin Correa. Et alors, ouais. J'en parle parce que avec bienveillance et amitié, parce que je suis le premier à le taquiner là-dessus. Mais je sais qu'on vient des fois à chercher Roland plus de 20 ans après sur Eduardo Berizzo, nanani, nanana. Là, j'espère que dans 20 ans, on ira chercher les dirigeants de l'Olympique de Marseille avec Joaquin Correa, que ça tombera pas dans l'oubli, parce que c'est quand même incroyable le transfert de A à Z. Ce mec qui arrive donc après le barrage perdu de Ligue des Champions contre le Panathinaikos, le tour préliminaire, pardon, et qui arrive, dont on nous dit, il n'y a pas de souci, il va jouer sur le côté gauche, il est prêt à s'adapter, il est prêt à reprendre ce poste qu'il avait à Séville, voilà, il est prêt à jouer le coup dans un 4-4-2, machin. Et on ne l'a jamais vu faire un seul effort. On ne l'a jamais vu faire un repli défensif dans les temps. On l'a jamais vu concerné.
Ah, c'est incroyable.
Et on l'a vu venir à Marseille en vacances, comme l'avait fait Mitroglou en son temps. Donc, ça, j'espère qu'on va avoir quand même des explications, parce que c'est une grosse farce auquel on a assisté.
Et une farce qui a coûté très cher, hein, le salaire astronomique de Joaquín Correa. J'avais un autre nom, mais je dois reconnaître qu'il était loin derrière. Hein. Correa l'emporte largement. La saison de Unai, je trouve qu'il était pas loin d'être peut-être sans Correa. Il avait ses chances dans sa catégorie.
S'il y avait une catégorie décevant, je crois qu'il serait leader.
J'ai une question pour toi, Thibaut. Ouais. Tu penses que dans la hiérarchie des temps de jeu, il arrive à quelle place Unai?
Ah, sur l'ensemble des joueurs?
Sur les 25 joueurs.
C'est-à-dire 50% du temps?
Ouais.
Tu le vois dans le classement par rapport aux autres, tu le vois quoi dans
le nombre de minutes jouées?
L'équipe. Non, dans le classement, tu sais, Aubameyang est deuxième par exemple, le premier c'est Paul Lopez.
Ouais.
Le deuxième c'est Aubameyang, tu penses qu'Unai est combien?
Ouais, 16e quoi.
Non, moi je le vois un peu mieux classé que 16e.
Il est 12e.
Ah ouais,
il est juste derrière
homme,
l'équipe type. Donc il est censé être 12e homme. Et par rapport à son apport, c'est là où on se dit qu'il a vraiment servi à rien et qu'effectivement il est casse-père parce qu'on a l'impression
Il y a des 12e qui rentrent 5 minutes, il y a des 12e qui rentrent 40 minutes. Lui, il est dans quelle catégorie de 12e?
Bah, plutôt les 40.
Avec les 5 changements, il est quand même il est près des 50%. Hein. Non, c'est là où on se dit c'est. Je crois qu'il a 42% de temps de jeu sur toute la saison. C'est beaucoup quand même pour un joueur qui nous a montré si peu.
Sur sa catégorie dans les 5 changements, s'il est justement 12e, c'est celui qui a été changé qui a joué le plus souvent.
Oui, absolument. Oui, c'est ça. Mmh. Il a joué 40% des minutes marseillais cette saison. Bon, en tout cas, le palmarès est clair. Il est plutôt sans appel aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sous les posts sur les réseaux sociaux si vous partagez nos avis, l'avis de l'After Marseille sur cette évaluation de la saison. Merci mon coach.
Salut.
Un grand merci à Romain Canouti. À bientôt Romain.
Salut, avec plaisir les gars.
Merci à Jérôme, à Kevin en régie. Merci surtout à vous d'être là, hein, fidèle à l'After Marseille tout au long de cette saison. On va se retrouver cet été pour lancer la nouvelle qui, on l'espère, sera bien meilleure pour l'OM. Mais restez à l'affût, sait-on jamais. On n'est pas à l'abri à tout moment de partir sur un épisode spécial en fonction de ce qui se passe. Bonne semaine à tout le monde et à très vite. Ciao.
RMC After Marseille.